Bienvenue. Vous soyez dans la joie, vous soyez dans la peine, vous êtes les bienvenus. S'il n'y avait pas eu un gitan qui venait m'apporter l'évangile, aucun d'ici ne serait là. Donc, nous serons éternellement reconnaissants à ce peuple, parce que c'est grâce à un gitan qui ne savait ni lire ni écrire, Raphaël Duval, que je suis sauvé, que ma femme est sauvée. Elle a été sauvée au travers de son ministère aussi, elle en Auvergne, moi en Suisse. Et puis ensuite, d'autres sont venus à Jésus par notre témoignage et vivent en communauté. Nous n'oublierons jamais. Jusqu'au bout, nous avons été chez Raphaël et Violette à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, pour, et plus souvent à la fin, bien sûr, pour les soutenir dans leur vieillesse. Et des fois, ils étaient un peu tristes. Ils disaient, oui, on a emmené beaucoup de gens à Jésus, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont reconnaissants et qui viennent nous voir. Vous êtes les seuls, vous rendez compte. Ils ont emmené des milliers de personnes à Jésus. Ils étaient les seuls à être reconnaissants. Ben, je prie pour que cette reconnaissance que j'ai semée, je puisse aussi la récolter, que ceux que j'ai emmenés au Seigneur ne me marchent pas sur la tête, mais qu'ils soient gentils avec moi. Parce que je crois que c'est normal, quand on est serviteur de Dieu, on attend. Bien sûr, on dit toujours gloire à Dieu, gloire à Dieu. On aime bien aussi de temps en temps qu'il y ait de la reconnaissance. Et je voyais Raphaël dans sa caravane, à la fin, c'était pas brillant. Hein. Mais il était malade, sa femme aussi, c'était terrible. Et puis je voyais leur cœur et leurs yeux, les yeux qui brillaient quand on arrivait. Alors, on va se faire un petit chinois, il disait. Alors, on allait au restaurant chinois. C'était génial. Maintenant, on n'y va plus dans le restaurant chinois. Parce que moi, sans Raphaël, je ne vais plus là-bas. J'ose plus aller. Ça me fait mal au cœur d'aller là-bas dans ce restaurant chinois. Mais bon, lundi, on va peut-être y aller avec Francis et Michou. Je ne sais pas, on va voir. Parce que de toute façon, on doit aller visiter quelqu'un qui est malade là-bas sur le camp. Voilà. Donc, merci ma petite sœur d'avoir chanté ça. Tu sais, tous les gars de chez, ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui vous aiment beaucoup, vraiment. Mais ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas le montrer. C'est des crétins un peu, pas seulement des chrétiens, ils sont aussi crétins. Mais beaucoup de chrétiens sont crétins. D'ailleurs, la Bible dit, l'apôtre Paul, déjà à l'époque, il disait « Considérez, hommes frères, qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sages parmi vous. » Il ne faut pas oublier les femmes, aussi, il y en a pas mal qui sont crétines, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Puis les clistés, ben, bon, ils font leur boulot. Puis ils ne sont pas parfaits non plus, hein. T'as vu, enfin t'as peut-être pas vu, mais il y a beaucoup de scandales chez eux, c'est des hommes qui ne sont pas forcément justes non plus. Et pendant la guerre, c'est qui a vendu les juifs et les tziganes aux Allemands? Ben c'est les clistés, hein. Faut oublier ça, faut pas oublier. Faut pardonner, mais faut pas oublier, hein, c'est vrai. Il faut toujours se rappeler, puis dire aux enfants que c'était la vérité, mais pas pour que les enfants aient de l'amertume, mais pour qu'ils sachent, afin qu'ils soient prudents. Faut être prudent. Jésus dit, il faut être simple comme des colombes, elle est simple comme une colombe, mais il faut lui apprendre à être prudente, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté dans ce monde. C'est de la méchanceté due à de la bêtise, surtout. La bêtise. Vous avez des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont très intelligents. Et puis, comme Raphaël, Violette, c'était des gens très intelligents. Enfin, bien sûr, ils n'ont pas inventé la poudre à canon, mais quand même, c'était des gens intelligents. Ils avaient une intelligence spirituelle. Vous voyez, comme Philippe, tout à l'heure, vous parlait. Ce verset, c'est vrai. Mais il y a une condition, c'est toujours d'être honnête, avoir la foi. S'il n'y a pas d'honnêteté, s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Donc, nous avons été mis de côté pour pouvoir vivre quelque chose de beau. Ben, vivons-le, pas simplement à l'intérieur, mais partageons, pas simplement en témoignant aux gens, mais aussi en témoignant de la reconnaissance aux frères et sœurs qui nous bénissent, qui nous aiment, qui le montrent, par les petites choses, les choses toutes simples. Comme, ben, je dis par exemple comme la Michou qui fait votre linge depuis combien d'années, 25 ans. Un petit merci de temps en temps, ça ne ferait pas de mal. Hein? Voilà, un peu de reconnaissance, un peu de gentillesse. Voilà, eh bien, on va passer à la parole de Dieu. Amen. Merci ma petite sœur de nous avoir mis les choses au clair et de nous avoir dit les choses clairement. Parce que malheureusement, c'est la triste vérité. Mais heureusement, c'est que Jésus, lui, il est allé le long des... Et puis il y a un bonhomme qui est venu là avec de l'asthme. Un grand jour, il s'appelait Clément le Cossec. Et puis, il s'est mis toute la Pentecôte à dos. Ils l'ont foutu dehors, vous savez ça? Parce qu'il s'occupait du peuple gitan. Moi, je sais, je connais un pasteur, quand les gitans rentraient dans l'église, vous savez ce qu'ils faisaient? C'est pas loin, c'est à Rouen. Ils prenaient une bombe de désodorisant, puis ils faisaient pchit sur eux. Non, mais vous vous rendez compte? Voilà, c'est ça. Et la méchanceté, c'est souvent à cause de la bêtise. De la bêtise. De la bêtise. Alors, Camélia, la gitane, elle disait, il y a deux choses que je déteste. La bêtise et la saleté. Parce que un giton pas propre, ça n'existe pas. Enfin, je n'en ai pas vu. Oui, il doit y en avoir, comme chez les gars, j'ai aussi, il y en a qui sont crados, mais enfin, bon, ce sont des gens propres. Voilà. Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas ce petit chant-là, toi, tu vas chanter. Pourtant, hein, j'en connais des chants de chez vous. Mais celui-là, je ne connaissais pas. Eh bien, il est filmé, on l'a maintenant. On va pouvoir le faire voir aux clistés qui viennent chez nous de temps en temps. On en a des clistés qui viennent chez nous. On leur fera voir. Enfin, les pieds. Bien fait. Matthieu 9, 1, 7. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce qu'il avait demandé pardon? Non. Mais dans son cœur, il était contrit, dans son cœur, il était malheureux. Et Jésus qui lit dans les cœurs, il a pardonné. Amen. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème, les religieux. Alors là, comme crétin, on ne fait pas mieux. Vous avez des clistés crétins, vous avez tout ce que vous voulez, mais alors les religieux, quand ils se mettent à être crétins, mais alors là, mais il faut fuir, hein, ça fait peur. C'est dangereux, vous avez vu, ça zigouille en ce moment les religieux. Autrefois c'était les catholiques, maintenant c'est les musulmans, enfin pas tous les musulmans. C'était pas tous les catholiques non plus qui ont zigouillé et massacré les protestants, mais enfin bon... C'était quand même des religieux qui l'ont fait. C'était pas, voilà. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous, hein, les religieux. Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? T'es gonflé, Jésus, hein? C'est quoi le plus facile? Hein? C'est quoi le plus facile? C'est ça qu'il disait. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, il dit, hein, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison et la foule vit cela. Ils étaient saisis de crainte. Ah, c'est bien, leur foutent les jetons un peu, la crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas vous prêcher sur cette histoire. Je vais juste me servir d'une phrase, c'est « lève-toi, prends ton lit et marche. » Prends ton lit. Parce que l'Église dort, elle dort. Alors, lève-toi, prends ton lit et marche. S'il faut que je prenne mon lit il est énorme, je ne vais pas pouvoir le porter. Mais bon, à l'époque c'était des nattes, vous savez. Mais voilà, lève-toi et marche. Nous sommes tous... Depuis notre conversion, des créatures différentes de ce que nous étions avant. Philippe nous a donné un bon témoignage de ce qu'il était avant, et encore, il a raccourci, parce que je connais toute l'histoire. Il est vraiment passé des ténèbres à la lumière. En venant au monde, mes frères et sœurs, nous sommes nés, comme tous les humains, avec une grosse tache. Une grosse tache, on n'a pas fait exprès, mais c'était comme ça, on est venu au monde avec une grosse tache. Cette tache, elle nous empêchait de voir Dieu. Cette tâche nous empêchait de sentir sa présence, cette tâche nous empêchait de comprendre même ce qu'il disait, cette tâche nous empêchait d'être bénéficiaires de ses promesses, c'était une tâche qui était sur nous. Nous étions livrés à nous-mêmes, Dieu nous avait laissés. C'est drôle hein, de penser que Dieu avait abandonné son troupeau. Bien fait, il a bien fait. C'est vrai quand... Puisqu'ils ont montré qu'ils n'avaient pas confiance en lui, il a bien fait de les laisser tomber, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Débrouille-toi. Alors il les a livrés à eux-mêmes, il nous a livrés à nous-mêmes, nous sommes venus dans ce monde, notre âme, c'est-à-dire notre être, ben, s'est développé comme il a pu, avec ce qu'il avait. Hein, nos parents, par exemple, ben, ils nous ont plus ou moins bien éduqués. Hein, nos professeurs nous ont instruits, mais on les a plus ou moins... On les a plus ou moins écoutés, je dirais même qu'ils nous ont donné de l'instruction, mais on n'a pas appris. Hein? Il y en a beaucoup qui disent autrement, mais c'est ça, quand on vous donne, il faut prendre. Les prêtres, les pasteurs nous ont enseigné, mais nous n'avons pas appris non plus ce qu'ils disaient. Moi, j'allais à l'église de temps en temps, mais je n'ai pas appris ce qu'ils disaient au sérieux, je ne l'ai pas appris, je n'ai pas compris. Vous voyez? Et notre vie, ben, elle s'est écoulée ainsi. À nous tous, on est tous, hein, il n'y a pas de cas parmi nous, on est tous au même truc. Et on est devenus des ados, là, c'était formidable. Hein, Philippe, que c'était bien que t'en étais des ados. Mais est-ce qu'on était bien que t'en étais des ados? Les ados sont sûrs que c'est nous qui ne sommes pas bien, que c'est eux qui sont bien. Mais dans 10 ans, mais ils auront honte. Mais honte. Comme nous, on a honte maintenant de toutes les choses qu'on pensait, qu'on disait, qu'on croyait, qu'on était sûr de nous. Puis on est devenus des adultes, et puis, eh ben, on a perdu notre fraîcheur enfantine, notre simplicité, notre spontanéité, on a perdu tout ça, et nous sommes devenus des égoïstes par la force des choses. On s'est aperçu que si on ne prend pas, ben, on nous prend. Alors on a commencé à servir, hein, notre égoïsme, notre ego. Hein, on appelle ça notre ego. L'égoïsme, c'est notre ego, c'est notre moi. Notre moi, eh bien, c'est ça qui nous dirigeait, c'était personne d'autre, hein. Ni Dieu ni maître, comme tu disais, c'était moi je pense que, moi je décide que, c'est moi que j'ai raison, et voilà, et voilà. Et le moi n'a pas forcément que des mauvais côtés, on a aussi des bons côtés, hein, c'est vrai, on n'est pas tous complètement pourris quand on n'est pas converti, mais quand même, faut avouer qu'il y a la tâche, elle est là, la grosse tâche. Et puis, notre moi, notre être, notre âme, un jour a rencontré Jésus, moi c'était le 1er juin 1968, à Lausanne, je suis rentré dans une salle, il y avait Raphaël qui prêchait, et puis là, ah, oh, Jésus, vous savez, rappelez-vous, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était là dans Raphaël, et quand il a imposé ses mains sur moi, au nom de Jésus, il a enlevé le péché, il a enlevé la tâche. Oh, de coup, j'ai vu, j'avais un autre point de vue sur les choses. Hein, vous vous rappelez notre frère Olivier quand il a prêché l'autre jour, il a dit, c'était toi Olivier avec la montagne, hein, il a dit, si je vais au pied de la montagne et je regarde, ben c'est tellement gros, je vois rien du tout, mais si je recule, je vois mieux. Et il a fait toute une explication là-dessus. Et là, tout à coup, j'ai vu autrement parce que j'avais un autre point de vue, parce que ma tâche était enlevée, mon péché était enlevé. C'est pas seulement qu'il m'a pardonné, il a ôté le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, notre ego, quand on a rencontré Jésus, notre moi, notre ego, il a buté contre une découverte. Parce que moi, j'ai travaillé avec un pasteur qui s'appelle Bill William à Paris pendant 7 ans dans une œuvre qui s'appelait Teen Challenge. C'était inspiré par un prophète qui s'appelle David Wilkerson, que vous connaissez peut-être. Qui c'est qui connaît David Wilkerson? Un prophète de Dieu extraordinaire, il est décédé maintenant. Et cet homme, il disait, convertissez-vous, vous avez des problèmes, convertissez-vous, venez vers nous, venez avec nous, vous en aurez un deuxième problème. Parce que c'est vrai que quand on se convertit, on bute sur une découverte, une nouvelle vie, il faut tout réapprendre. Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut tout réapprendre. Puis on fait des tas de bêtises, on est frustré, on n'est pas bien. Parce que depuis qu'on est né, là, moi je suis né le 5 février 1950, c'est bientôt mon anniversaire. Ben oui, quoi, c'est vrai. Non, mais je dis pour vous ayez le temps d'économiser pour me faire un beau cadeau. Donc, depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on naisse de nouveau, jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus, puis qu'il enlève la tâche, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis ce moment qu'on est né, on a cherché qu'une chose, c'est à obtenir, à ramasser, à prendre. Tout de suite, moi je vois que je me promène avec les petits dans les magasins, « Papy, je veux les bonbons. Papy, je veux la petite voiture. Papy !» On veut prendre, on veut obtenir, on veut... Et ça, c'est notre ego. On est tous comme ça. On a tous été comme ça. Tout ce qu'on pouvait s'approprier, on se l'appropriait, et des fois, plus ou moins, malhonnêtement. Et on a observé une chose, en grandissant, c'est que ce n'est pas les choses qu'on obtient, les choses qu'on ramasse, qui remplissent notre cœur. On a toujours un vide, c'est-à-dire une insatisfaction, on n'est pas bien, on n'est pas content. Il y a quelque chose qui n'est pas bien en nous, l'insatisfaction. Et quand on rencontre Jésus, on rencontre l'amour, mais ce n'est pas l'amour de l'argent, ou l'amour des belles voitures, ou l'amour du pain et du fromage, ou l'amour sexuel, ou l'amour tout ce que vous voulez. Non, c'est le vrai amour qu'on rencontre quand on rencontre Jésus. L'amour divin, l'amour parfait. Alors, on comprend que Jésus nous a tant aimés, n'est-ce pas? Il nous aime, c'est une révélation, c'est une bombe. Et puis il nous explique par ses serviteurs, par Raphaël, par d'autres serviteurs de Dieu, il nous explique par les pasteurs, par d'autres ministres qu'on rencontre tout au long de notre vie, dans l'Église de Jésus-Christ, il nous explique par la lecture de la Sainte Bible, il nous explique comment il a pensé à nous sauver, comment il a fait un plan pour nous sauver et comment il est venu nous sauver de ce vide, de ce non-sens qu'était notre vie. Et il nous explique, on trouve dans les Écritures, comment il a ôté notre tâche, parce que s'il n'y avait pas les Écritures pour nous dire, ben le Saint-Esprit ne pourrait pas nous inspirer, parce que le Saint-Esprit n'est là que pour l'inspirer, pour nous rappeler les choses qui ont été dites là-dedans. D'accord ? Donc on ne saurait rien s'il n'y avait pas eu des hommes limités comme Pierre, Paul, Jacques, Jean, Moïse, Abraham, Isaac, tout ça. S'ils n'avaient pas écrit afin qu'on sache, hein, donc, et puis c'est toujours pareil aujourd'hui, donc c'est, on a appris, parce qu'on a appris qu'il nous aimait à un point fou, il a même été jusqu'à donner sa vie. Et cette tâche, ce péché, parce que c'est le péché, cette tâche, le péché premièrement d'Adam, hein, c'est, parce que c'est Adam, non d'abord, excusez-moi, il faut que je sois galant, c'est Ève qui a commencé. J'aime bien dire ça, ça me fait rigoler. C'est Ève qui a commencé, et puis ensuite Adam qui a plongé. Ils ont plongé l'humanité entière dans les ténèbres, ils ont plongé l'humanité entière loin de Dieu, parce que c'est à ce moment-là que Dieu s'est retiré, et on a marché loin de la lumière, loin de la vérité, et puis alors loin du vrai amour, loin de tout. Puis alors on marchait à tâtons. Alors Jésus a enlevé cette tâche, mais il a aussi enlevé la tâche de nos propres péchés, parce que puisqu'on était livrés à nous-mêmes, ben on a fait que des bêtises, il faut bien avouer. Faut bien avouer, des bêtises dues à notre égoïsme, dues à notre moi surdimensionné, l'orgueil, ou alors, au contraire, on se déprécie, puis alors on se prend pour des rien du tout, alors que c'est faux, Dieu nous aime, et il n'aime pas des rien du tout. En fait, non seulement Jésus a pardonné nos fautes, mais en plus, il a ôté la tâche, il a ôté le péché, il l'a enlevé de notre vie, et à partir de là, on s'est mis à voir clair, on a commencé à marcher dans la lumière, et puis on a été devant un fait extraordinaire. Maintenant, je sais. Ah, là, moi, quand j'étais jeune converti, j'étais sûr que j'avais tout compris. Mais c'était une évidence, j'avais tout compris. Oh, oui, j'avais compris le principal, mais j'avais pas tout compris. J'avais pas tout compris. Hein? Donc, c'est petit à petit ensuite que sur le chemin, eh bien, notre connaissance augmente. Il faut faire attention que la connaissance n'augmente pas plus haut que l'amour qu'on a les uns pour les autres. Parce que de nouveau, on peut se glorifier de notre connaissance et puis c'est pas bon. Et tout à coup, on réalise, parce qu'on apprend, que Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais qu'il veut être notre maître. Notre maître. Et c'est là que notre moi, il bute contre une découverte. Je vous disais tout à l'heure, quand on vient à Jésus, on bute contre une découverte. Quelque chose sur laquelle notre moi, oh, il bute. On s'aperçoit que Jésus nous a donné le pardon. Il nous a rendu la pureté en enlevant la tâche, en enlevant le péché. Il nous a tout donné, nous avons tout pleinement en lui. Il a répandu sur lui sa bonté, ses dons. Il nous a donné des forces et maintenant, tout a changé et nous nous apercevons que notre bonheur ne réside plus simplement dans le fait de recevoir, ni de prendre, mais aussi notre bonheur réside dans le fait de donner. On dit, ah, ça y est, va prêcher l'argent. Non, 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 c'est pas le genre ici, on prêche pas l'argent. Nous, l'argent, on le gagne, mais on le mendie pas. Alors, cette découverte, elle est capitale. Le fait que notre bonheur ne réside pas dans le fait de prendre, mais dans le fait de donner. C'est le monde à l'envers. Personne ne pense que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Cette découverte, elle est capitale parce qu'elle nous délivre. Elle délivre notre moi, notre ego, de toutes sortes de peurs. Parce que mes frères et sœurs, oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, tous ici, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est vrai. Nous sommes devenus des créatures nouvelles, c'est vrai. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, c'est vrai. Mais notre ego, notre moi, a vécu longtemps avec de mauvaises habitudes, non? Bien sûr. Et nous devons apprendre à vivre cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée, on l'a. Mais maintenant, il faut apprendre à vivre. C'est un peu comme les Juifs quand ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont été esclaves pendant des générations et des générations et des générations. Et ils ont pris des mauvais plis. Vous savez, quand on fait le pli d'un pantalon puis qu'il est raté, ben, c'est difficile de le faire. Il faut de nouveau tout remouiller, puis il faut refaire de nouveau le pli, il faut chauffer de nouveau pour que le pli vienne comme il faut. Ben, les Juifs, ils avaient pris des mauvais plis. Ils ne savaient pas vivre en homme et en femme libre. Ils savaient vivre en esclave. Ils savaient vivre en esclave, c'est tout. Et ils ont dû apprendre à vivre. C'est pourquoi ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert pour apprendre à vivre. Pour apprendre à vivre. En homme libre, en femme libre. Ça s'apprend. Et comment est-ce qu'on apprend à vivre en homme libre? Eh bien, tout à l'heure, notre frère nous disait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous chuchote la vérité. On lit les Écritures, on ne les comprend pas bien, mais tout d'un coup, voilà que le Saint-Esprit nous rappelle des choses qu'on a lues ou qu'on a entendues, et il nous chuchote des choses pour nous diriger, pour nous conduire. Comment est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend en lisant les Écritures. On s'aperçoit que un tel a fait une bêtise, il ne faut pas que je fasse la même. Hein, voilà. Puis on apprend, on voit, on apprend des choses. On apprend aussi en écoutant les serviteurs de Dieu. Pourquoi vous pensez que parmi les brebis du Seigneur, il y en a qui ont été pris à part pour être des bergers? Ben, c'est parce que les brebis en ont besoin. Ben, oui. Non? Pas besoin? Besoin de rien? Ça, c'est l'Odyssée. Hein, c'est l'Odyssée. Mais beaucoup de personnes nées de nouveau ne savent pas reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ils ne savent pas si c'est leur pensée ou la pensée de Dieu. Et parce que pendant des années, on a vécu comme les Juifs dans l'esclavage, et on ne sait pas reconnaître si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu quand on entend les chuchotements de l'Esprit. Ou alors, ils ne comprennent pas grand-chose quand ils lisent la Bible. Il y en a, c'est simplement parce qu'avant, ben, ils ne lisaient jamais, donc c'est pas facile pour eux de lire. Ou alors, ils sont tellement distraits par toutes sortes de choses que quand ils lisent, ils n'arrivent pas à se concentrer. Ou alors, ils ne font pas confiance aux envoyés de Dieu. Parce que pour apprendre, il faut aussi faire... Il y a ces trois choses, les chuchotements de l'esprit, la parole écrite et la parole prêchée. Et ils ne font pas confiance aux envoyés de Dieu, comme il nous disait tout à l'heure le frère Philippe. Mais comment savoir qui dit la vérité? Comment? Il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'idées différentes les unes des autres. Comment savoir qui dit la vérité? Il nous a dit comment il fallait savoir. Il a dit comment il fallait faire. Hein? Alors, certaines personnes nées de nouveau ont de la peine à croire dans un homme de Dieu, tout simplement parce que ce qu'il dit ne correspond pas à sa culture, par exemple. Ou, bon, moi je vais en Afrique, ils ont une culture tellement différente. Mais Jésus n'est pas venu pour qu'on garde notre culture africaine, européenne, zigane ou que sais-je. Oui, le folklore, c'est sympa, mais la culture, vous savez, les principes. Non, il est venu pour qu'on prenne sa culture à lui. Hein? C'est pourquoi la petite sœur, elle a dit, il n'y a plus de barrière, il n'y a pas de gitans, il n'y a pas de gorgé. Bien sûr, mais ben, les gitans joueront du violon et de la guitare mieux que n'importe quel autre gorgé. C'est comme ça, parce que c'est dans la culture, c'est dans le sens et tout ça. Les noirs, moi j'essaye de danser comme les noirs, mais je me couvre de ridicule, parce que c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans ma culture, c'est pas dans... Alors je peux apprendre. Mais c'est ridicule. Il ne faut pas apprendre. Il faut simplement. On fait ce qu'on fait, on est ce qu'on est. Puis c'est tout, puis c'est bon. Mais je parle dans des cultures, par exemple, négatives, comme par exemple, chez les Africains, ils ont des trucs avec les morts. Vous savez, ils ont des trucs, des croyances bizarres avec. Ça, il faut qu'ils arrêtent ça, avec ces machins de funérailles. Mais c'est très difficile, c'est pas facile. Alors certains hommes de Dieu arrivent, puis bon, on ne les croit pas parce que ça ne correspond pas à sa propre culture, ou à ses croyances passées, ou à la façon comment ils ont évolué, n'est-ce pas, dans leur propre environnement. Alors, ils ont de la peine à croire les serviteurs de Dieu aussi, parce que des fois, les serviteurs de Dieu sont bizarres aussi, il faut reconnaître. Hein? Est-ce que vous avez connu le Cossack? Moi, j'ai connu le Cossack. Ah ben, il était bizarre, le Cossack. Hein? Bon, des fois, il était tellement poussé à bout par son peuple qu'il faut comprendre aussi pourquoi il gueulait. Moi, je l'ai entendu au château des Choux pousser des bras, mais j'en ai marre! Je me tire, je veux plus vous voir, tout. Puis après, il pleurait dans les bras, et puis c'était fini. Mais c'était un gueulard, le Cossack. C'était formidable. C'est un homme de caractère, mais il a un sale caractère. Mais voilà, alors des fois, on n'aime pas trop. Et alors, c'est un choc. C'est un choc pour eux. Leur ego, leur moi, bute contre la découverte de quoi? Même la seigneurie de Jésus. La seigneurie de Jésus.
Jésus est le Seigneur et il y a des règles. Mais ils sont sincères, mais ils se butent quand même. Alors ils se disent, si Jésus était là en face de moi, je croirais tout ce qu'il dit. Même s'il dit qu'il faut se coincer les doigts dans une porte pour aller au ciel, ben je me coincerais les doigts dans une porte pour aller au ciel. Mais il faut que ce soit Jésus qui me dise. Faut pas que ce soit ni un bouquin, ni mon imagination, ni un bonhomme. Hein? Si un jour je vous dis qu'il faut vous coincer les doigts dans une porte pour être sauvé, il faut fuir, hein, parce que c'est une fausse doctrine. Mes frères et sœurs, pourquoi cette résistance? Pourquoi cette résistance? Parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la réalité de ce que c'est que le royaume de Dieu. Pour vous et pour moi, il faut se rappeler d'où on vient, comme Philippe nous a expliqué. C'est un privilège que nous avons eu de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'était une grâce, on ne méritait pas, pour s'en souvenir. Et une fois dans ce royaume, nous devons nous comporter selon les règles du royaume. Dieu, dans une de ses règles, c'est simple, je crois que c'est Stéphane qui nous l'a dit cette semaine. Il dit, Dieu ne cherche pas à être compris, Dieu veut être cru sur parole. Je trouvais que c'était très beau. N'est-ce pas la vérité? Parce que vous comprenez, vous, pourquoi il faut se faire tremper dans l'eau. On peut tirer une petite doctrine pour expliquer que, voilà, c'est comme une tombe, on disparaît du monde des vivants, puis on ressort en nouveauté de vie. Oui, c'est comme un symbole. C'est vrai. Mais pourquoi il a inventé ce truc-là? Et pourtant, il dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas baptisé. Mais tu peux être baptisé, mais si tu ne crois pas... Enfin, non, mais croire et être baptisé, c'est des deux choses. Pourquoi? Ça ne suffit pas de croire? Non. Être baptisé. Mais Seigneur, je comprends, hein. Je trouve que c'est bête. Enfin bon, je vais le faire, mais je trouve que c'est bête. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi? Pourquoi il a inventé ce truc de se tremper dans l'eau? Pourquoi il laisse des embûches sur notre chemin? Il fait exprès. Il fait exprès. Il met des trucs, des embûches sur notre chemin, des choses qui paraissent pas intelligentes, des gens qui paraissent pas intelligents, des scandales, des horreurs, des trucs, des machins, pour que justement on puisse se permettre de douter. Parce que si on ne peut pas avoir de possibilité de douter, on ne peut pas manifester la foi. Est-ce que vous me suivez? Comment vous voulez manifester la foi s'il n'y a pas possibilité de ne pas manifester la foi? Pour pouvoir dire, ça c'est le haut, il faut que d'abord je sois sûr que là il y a quelque chose qui s'appelle le bas. Ça c'est la droite pour moi parce que là il y a la gauche. Pour vous c'est le contraire. Mais c'est comme ça, il y a toujours tout et son contraire, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec foi s'il n'y a pas un moyen pour nous, une possibilité d'avoir des doutes. C'est justement parce qu'il y a des possibilités d'avoir des doutes que quand on commence à croire, là Dieu est honoré. Parce qu'il voit qu'on fait le choix de lui faire confiance, même sans comprendre. Il veut notre foi. Dans la version Chouraki de la Bible, il dit « il veut notre adhérence ». Pas notre compréhension. Jamais il a dit ça. Après, il nous explique pour qu'on comprenne. Mais c'est après. D'abord, il veut qu'on manifeste de la foi. Il ne cherche pas à être compris. Il veut être cru sur parole. Alors, il envoya des serviteurs dans son royaume. Parce que lui, il est toujours au ciel. Hein? Et il envoie des serviteurs pour communiquer sa parole. Hein? C'est Paillon qui m'a appris la première fois qu'il y a 5 ministères de la parole. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce n'est pas une fausse doctrine, hein, c'est vrai. C'est Paillon qui l'a dit, alors c'est vrai. Il a envoyé donc des hommes pour la parole. C'est des ministères de la parole. À part ça, vous avez d'autres choses, d'autres fonctions dans l'Église. Mais ces ministères-là, c'est spécial. C'est porte-parole. Alors, qui il a envoyé? Regardons un peu. En gros, hein, on ne va pas faire tout le tableau. On va prendre les plus grands. Regardez. Moïse. Il bégayait. Écoutez, franchement... Maintenant, c'est interdit par la loi en France, et c'est une bonne chose, de faire des sketchs humoristiques pour se moquer des gens qui bégayent. C'est parce que c'est un handicap. Mais les gens rigolent des gens qui bégayent. Les sourds. Il suffit. Si vous êtes sourd, mais on ne va pas vous dire que vous êtes sourd, on va dire que vous êtes sourdingue, que c'est parce que ceci... C'est toujours... On rigole, on se moque, n'est-ce pas? Et Moïse, il était bègue. Eh bien, il fait rigoler, les gens. Ainsi dit le Seigneur. Ah bon? Il était tellement conscient de son handicap qu'il a demandé « Tu pourrais pas dire à Aaron de le faire à ma place ?» C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, non, c'était bizarre, Moïse. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Il aurait pu choisir quelqu'un qui parle bien pour porter sa parole.
Ben non. Ensuite, Jérémie.
Vous avez lu Jérémie? C'est un dépressif. C'est un dépressif. Jérémie, c'est un dépressif. C'est un bipolaire. Il a des hauts, il a des bas. C'est épouvantable, Jérémie. Comment on peut faire confiance à un homme pareil? Ben, c'était lui que tu avais choisi. Ésaïe. Ésaïe, c'était Claude François, Ésaïe. C'est un homme qui se mettait en colère, qui gueulait, qui était exigeant. C'est un gueulard. Ésaïe, c'était insupportable de vivre avec un type pareil. Mais pourtant, c'est voilà. Jonas. C'est incroyable. Dur d'entendement comme Jonas, mais il faut le faire. Pourquoi il a... Mais il y avait d'autres personnes quand même sur cette terre. Pourquoi il a choisi celui-là, Jonas? Pleurnichard en plus. Et David, bon, on ne va pas faire le tableau, vous connaissez David. Ah, alors là, hein, David, bon, enfin bon, on a tous pardonné David, mais bon, hein, vous savez ce qu'il a fait, David. David, et on est tous en train de chanter ses psaumes et tout. Mais voilà, bon, c'est un type qui a commis l'adultère. Moi, j'ai connu des hommes de Dieu qui ont commis l'adultère ici en France. Ben mon Dieu, du jour au lendemain, on les a virés comme des malpropres, c'est terminé. Ben, les gens qui ont viré ces hommes, ils auraient viré David. Il ferait mieux de virer David aussi, pourquoi pas? Pourquoi ils virent pas David, puis ils virent... Hein? C'est horrible. Vous voyez l'être humain comme ça? C'est difficile. Et puis alors, Pierre, l'impétueux Pierre, l'extraverti de première, Pierre, oh! Il tenait tête à Jésus. Jésus un jour a dû lui dire, espèce de Satan arrière de moi. Vous vous rendez compte? Pierre, puis il faudrait croire Pierre. Il faudrait croire ce qu'il a écrit, ce Pierre, là, cet extraverti de malade. Et Paul, rusé, juif rusé. Vous l'avez vu, Paul, quand il écrit aux gens de je ne sais plus quelle église? Bon, alors, j'ai dit aux frères de telle et telle ville que chez vous, la collecte pour Jérusalem est prête. Enfin, j'espère que... Vous ne me ferez pas mentir. Oui, je vous avais dit qu'il faut livrer un tel homme au diable, mais c'était juste pour voir si vous alliez le faire. Paul, Saint Paul. Vous ne l'auriez pas aimé, Paul. Ah non, non, puis en plus, il paraît qu'il était petit, moche, pas beau, ça. Je plaisante un peu, mais c'est pour dire, pourquoi Dieu envoie des gens comme ça? Pourquoi? Pour qu'on puisse douter d'eux ou avoir la foi. C'est ça, c'est tout. Bref, il envoie, et encore aujourd'hui, des gens un peu bizarres. Regardez Osborne. Osborne avec ses moustaches à la D'Artagnan, avec sa perruque. Hein, pas parfait. Et il leur donne un message à ces gens. Et il attend que les gens croient leur message. Alors, pour croire de telles personnes, il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Les Français... Vous savez, je suis en train de faire une étude... au sujet des puissances qui existent sur les pays. C'est une étude spirituelle. Je ne suis pas encore prêt pour vous l'enseigner. Mais il y a des esprits, des puissances qui règnent sur les pays. C'est biblique. Et sur la France, il y a un sale esprit, vraiment un sale esprit. C'est un esprit méchant, mauvais. Et si on ne fait pas attention, c'est dans cet esprit, c'est sous cet esprit, sous cette influence qu'on se met. Les Français, Osborne, c'était l'homme depuis les années 50-60, qui a eu sur Terre le plus grand ministère de miracles au monde. Tout le monde l'aime. Je vais partout dans le monde, j'ai visité 70 pays, tous les chrétiens aiment Osborne, sauf la France. Pourquoi? Parce qu'il a une drôle d'allure avec sa perruque, parce que, je sais pas. Alors... Branham. Ils ont de la peine avec Branham. Pourquoi? Parce que Branham a apporté le début du rétablissement de toutes choses et ils n'ont pas admis les doctrines que Branham rétablissait. Ils voulaient rester dans leur vieille doctrine. Ils ne voulaient pas recevoir ce que Dieu était en train de rétablir dans l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de Branham? Ils ont dit, c'est le diable. Et encore aujourd'hui, vous avez des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Branham en bien. Pourquoi? Parce que dans les églises, aussitôt qu'on dit Branham, c'est diable. C'est un bonhomme comme les autres. Un type, tiens, un peu, il savait lire. Mais il n'était pas beaucoup plus instruit que Raphaël, hein, le gitan. Hein. C'est un homme qui s'est fait tout seul, qui, voilà, et tout. Puis il a dit des énormités, il a dit des bêtises plus grosses que lui. Et alors, vous en dites jamais, vous, des bêtises? Vous avez diabolisé un homme parce qu'il a dit des bêtises? C'est complètement ridicule. quel prophète de Dieu. Et ils ont même eu de la peine avec Billy Graham, un homme de Dieu reconnu dans le monde entier, qui a prêché, qui a amené des millions de personnes à Jésus, qui est aux États-Unis appelé le prophète de la Maison-Blanche. En France, on le rejette. Oh non, on dirait, il a des allures de vendeur de savonnettes avec ça. Ah bon, bon. David Wilkerson, un homme que l'armée américaine a demandé pour les aider à sortir des gens qui revenaient du Vietnam et qui avaient des problèmes de drogue. L'armée américaine a remarqué la valeur de cet homme. Mais en France, David Wilkerson, non. Il a porté une prophétie dans les années 70 qui annonçait tout ce qui est en train d'arriver là. Le sida compris, la crise économique et toutes ces choses-là. Ce livre s'appelle La Vision. On ne trouve plus. Ah non, les Français, ils ont rejeté ça. Pourtant, tout est là. Tout, Dieu l'avait montré. C'est un prophète, mais les Français n'en veulent pas. David Wilkerson, c'est vrai, t'es un petit bonhomme. Tiens, je parlais de Claude François tout à l'heure. Ben, c'est un peu Claude François aussi, c'est-à-dire un caractère de cochon qui piquait des crises, mais de rage. Moi, je l'ai vu, j'étais à Paris, on a organisé une réunion avec lui à la salle de la mutualité. C'est une horreur, mais affreux. Un petit pet sec, un nerveux et tout. Mais quel prophète! Il y a l'homme, puis il y a le ministère. Est-ce que c'est possible de comprendre ça? Tous les hommes de Dieu. Alors, devant cette découverte, la découverte du don de soi, parce que quand je dis qu'avant on était pour prendre et maintenant Dieu nous conduit à donner, avant cette découverte qu'on doit donner, mais pas... C'est ras-le-bol de dire qu'il faut donner de l'argent, il faut donner sa vie. Jésus a dit, si vous ne donnez pas votre vie, si vous renoncez pas à votre vie, c'est-à-dire à vos opinions, à vos idées, à vos machins, à vos trucs, à vos croyances, à vos coutumes, si vous renoncez pas à votre vie, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors les gens se consolent en disant, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, mais tu dois donner ta vie, parce que Jésus est ton maître, et tu n'as plus le droit de penser comme tu veux, tu dois penser comme ton maître, tu dois agir comme ton maître. Tout disciple accompli doit d'abord être comme, doit devenir, avoir le but de devenir comme son maître, comme Jésus. Alors, quand on est devant cette découverte du don de soi, ça fait surgir un peu la peur. Se donner, je me rappelle toujours, il y avait un pasteur, il s'appelle Grimbal, je crois, je ne me rappelle plus, tu vois. On avait un local à Paris, c'était près de la rue Saint-Jacques, ça s'appelait la Boutique Verte, et là on faisait de l'évangélisation parmi les clochards. Puis moi, je leur prêchais, je dis, il faut donner ta vie à Jésus, etc. Puis il m'a pris à part, il m'a engueulé, il m'a dit, mais tu te rends compte ce que tu dis à ces braves gens? Donner leur vie? Mais tu peux pas dire ça, Michel. Je dis, la Bible le dit. Ouais, mais attends, mais c'est exagéré. Tout. Un pasteur. Bien sûr que Jésus veut votre vie. Il veut votre vie, il veut même plus que votre vie. Il veut votre mort. Il ne faut plus que ce soit toi qui vis, il faut que ce soit lui qui vive en toi. Ça fait peur. Peur d'être trompé. Peur de perdre, peur du diable, peur des démons, peur d'être séduit par un mauvais esprit. Et finalement, comme ces gens ne veulent pas croire les chuchotements de l'esprit, ne veulent pas croire les écritures, ne veulent pas croire les envoyés de Dieu sous prétexte qu'ils sont un peu bizarres, alors Dieu, dans sa grande bonté, emploie sa dernière carte afin de vous contraindre d'entrer dans son royaume et de marcher correctement, les épreuves, les problèmes, les difficultés, les châtiments, les souffrances et toutes sortes de maux. Alors, quand finalement on a passé par tout ça et qu'on est brisé, concassé, haché, menu, on vient vers le Seigneur, mon Dieu, pardon. Eh oui. Et ils reprennent leur place dans le troupeau, pardon. Blessés peut-être à vie, mais humbles. C'est dommage que pour être humble, il a fallu qu'il soit humilié. Et là, dans le troupeau, cette relation avec les autres brebis leur donne un nouveau sens, le sens de l'appartenance. Richie nous parlait il n'y a pas longtemps au sujet du corps de Christ. Si on est sauvé, on est dans le corps de Christ. Et si on est dans le corps de Christ, on a le sens de l'appartenance, c'est-à-dire on appartient.
Moi, j'appartiens qu'à Jésus.
Eh oui, mais le corps de Christ, c'est l'Église.
Moi, j'appartiens pas à une Église. J'appartiens à Jésus.
Oui, mais Jésus travaille avec son Église.
Oui, mais c'est laquelle la bonne?
Ben écoute, si tu crois pas que c'est ici, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Il y en a ailleurs, il n'y a pas qu'ici, mais bon. Le sens de l'appartenance. Oh, pas le sentiment d'appartenance du nourrisson qui appartient à sa maman, et il est là en train de sucer son sein. Non, 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 non. L'appartenance active de quelqu'un qui réussit à créer du bonheur. Voilà ce que c'est le sens de l'appartenance que découvre le chrétien quand il se rend compte qu'il a une place dans le corps de Christ et qu'il doit tenir sa place afin de pouvoir réussir à créer du bonheur dans le cœur des autres. Donner sa propre vie, c'est un acte créateur qui va modeler tous vos points de vue sur vous-même, sur moi et sur tout le monde. Avant de donner sa vie au service de Dieu, au service des frères et sœurs, au service du monde qui se perd dans le péché, l'essentiel, c'est de se protéger contre la perte. On a peur de perdre. Avant, on a peur de perdre notre argent, on a peur de perdre notre autonomie, on a peur de perdre notre image, on a peur de perdre notre personnalité. On a peur. Et puis là, lorsqu'on a passé par toutes ces étapes, eh bien, quand on est bien intégré au troupeau, à l'Église de Jésus-Christ, fidèle à son corps, même quand il est un peu malade, fidèle corps, âme et esprit, pas seulement esprit, facile ça. C'est comme les gens qui sourient à l'intérieur, vous savez. Ça va?
Oui.
Eh bien, souris. Des fois, je vais en Afrique et puis on dit, on va faire une photo. Alors, ils sont tous là. Je dis, souriez! Non, souriez avec les dents, on ne va pas vous les voler. Il faut exprimer notre fidélité au troupeau. Corps étant présent, âme et esprit. Librement. Librement, sans ressentir ça comme une perte. Jésus dit, celui qui perdra sa vie, la trouvera. Au contraire, le moi va commencer à trouver du plaisir à cette nouvelle vie. Parce que moi, j'existe toujours. Et vous, vous existez toujours. Vous êtes dans l'Église et vous avez donné votre vie, mais vous existez toujours, vous êtes là. Rebecca sera toujours Rebecca, ça ne sera jamais... Ce ne sera jamais Henri Salvador. Et moi, je ne serai jamais... j'aimerais bien, mais je ne serai jamais Osborne. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Je serai toujours moi, mais je vais prendre plaisir à vivre cette vie que Dieu a permis que j'ai ici-bas, sur cette terre et dans son Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ce moi qui aimait ramasser, pour que ce moi qui aimait prendre, pour que ce moi qui aimait gagner, aime tout d'un coup donner. Ben c'est simple, c'est l'amour. C'est l'amour qui est rentré dans le cœur, c'est-à-dire dans le centre, visé en plein cœur, visé dans le centre. C'est l'amour qui a visé dans notre cœur, dans notre centre. Jésus est entré dans notre cœur, dans le centre de notre vie. Cette personne qui a vécu toutes ces choses, elle est devenue le temple ambulant de Dieu. Il n'y a pas d'autre temple que vous. Vous êtes le temple ambulant de Dieu. L'habitation de Dieu, du Dieu vivant. Et puis vous êtes content de l'être. La vie avec Dieu, c'est un chemin qui commence un jour. Moi, ça a commencé assez tôt, j'avais 18 ans. Et c'est un chemin sur lequel on avance jour après jour. Et on avance pour arriver à un but. On a un but. C'est celui d'être ici-bas de plus en plus comme le maître, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis en chemin. Dominique nous a composé un petit cantique qui dit « Je suis en chemin ». Et je vais de l'avant. On y va ensemble. Je ne suis pas encore un disciple accompli. En me disant, si je commence à dire « Je suis un disciple accompli », je vous ai dans mes chevilles. Ici, il y en a qui sont sur le chemin, en marche, et puis il y en a aussi qui sont sur le chemin, qui sont arrêtés, qui sont assis sur une borne, fatigués, lassés. Ils se sont assis au bord du chemin. Alors je vous invite à vous lever et à marcher. Voilà pourquoi j'ai pris ce passage, lève-toi et marche. Si tu es assis au bord du chemin, je ne sais pas pourquoi tu es assis au bord du chemin, Dieu le sait, toi tu le sais, peut-être même tu ne sais pas, tu es simplement fatigué, là, c'est ras-le-bol. Je t'invite à aller de l'avant, à faire ce que tu as à faire ici-bas avec amour, sans mensonge, sans dissimulation, avec vérité devant ton Dieu. À être ce que tu es avec amour, avec amour, oui, parce que avec amour, ça veut dire avec Jésus. Jésus est amour. Fais pas les choses tout seul, fais-les avec Jésus. Alors vous qui êtes arrêtés sur le chemin, qui vous a arrêté? Qui? Qui vous a blessé le long du chemin? Qui? Pourquoi est-ce que tu es là, assis au bord du chemin de la vie éternelle? Pourquoi tu ne marches plus vers le but? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, je vais te dire un truc qui va t'énerver. Il n'y a rien, il n'y a rien, ni personne, rien ne justifie que tu ne marches plus. Il n'y a rien, rien. C'est tout du baratin, c'est du blabla et du pleurnichage. Il n'y a rien. Lève-toi et marche. Tu vas me dire, c'est dur. Oui, c'est dur, il faut un miracle. Mais Jésus est là pour le faire, le miracle. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Arrête de pleurnicher, arrête de te plaindre, arrête de dire le pasteur ceci, la sœur un tel, c'est cela, et le frère machin, et comme ci, et comme ça. Arrête de ça et lève-toi et marche avec Jésus. Avec amour, pardonne, oublie, fous-toi de tout ça et marche, c'est ta vie. Amen. Alors, lève-toi et marche. Camille avait un petit verset qu'elle aimait beaucoup, qu'elle répétait 10 fois par jour. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Mais réveille-toi, c'est toi qui dois le faire. Relève-toi, c'est toi. Moi, je peux juste te dire, allez, lève-toi, mais c'est toi qui dois te lever. Le paralytique, quand Jésus a dit, lève-toi, il aurait dit, on voit bien que tu n'es pas paralytique, toi. Hein? On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est que d'être paralytique. Comment tu me dis, mais je ne peux pas me lever, t'es bête ou quoi? Il aurait pu dire ça, le paralytique. Non, il a cru. Jésus ne demande pas d'être compris, il demande d'être cru. Alors, crois, lève-toi et marche. Arrête d'être dans cet immobilisme. Arrête de te donner des excuses. Arrête de dire que c'est la faute des autres. Jérémy, le pleurnichard, le dépressif, mon Dieu, il a tellement souffert. Ils l'ont tellement fait souffrir. Il disait que chacun se plaigne de ses propres péchés. Comme disait Fernandel. Lève-toi et marche. Transcende la vie quotidienne. Passe par-dessus. Donne-toi et tu recevras. Pas donne ton argent, donne-toi toi-même et tu recevras. Alors je te fais confiance que tu vas le faire maintenant. Alors, si vous êtes assis au bord du chemin là, ce matin, que vous avez été blessé par une brebis maladroite ou par un bouc qui vous a foutu un coup de corne ou par je ne sais pas quoi, si vous avez été blessé, maintenant, lève-toi. Là, maintenant, physiquement. Lève-toi et marche et je prierai pour toi. Toi qui écoutes sur le net et toi qui regardes la télévision aussi, tu vas dire, oh non, je ne vais quand même pas me lever. Non, évidemment, si tu es en voiture en train d'écouter le message, ne te lève pas. Hein, mais autrement, si tu es dans ta chambre, dans ton bureau, n'importe où, ne pense pas que c'est ridicule. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Arrête d'être arrêté. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Et pour moi, c'est très facile de te le dire. La balle est dans ton camp. C'est à toi de te lever maintenant. Amen. Jésus, je te prie pour ces personnes qui sont levées. Et je te demande, mon Dieu, de les aider maintenant à se fortifier pour reprendre la marche. Peut-être les muscles spirituels de leurs cuisses ont été affaiblis par une si longue attente au bord de ce chemin. Peut-être qu'ils ont besoin d'une béquille ou quelque chose pour commencer à marcher un petit peu. Aide-les, prends soit leur béquille, soit leur aide. Aide-les à marcher, aide-les à aller de l'avant. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu vois la foi qu'ils ont eue de se lever? Bénis-les. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. De vous asseoir. Est-ce que on peut demander les musiciens, s'il vous plaît ?